De retour dans le magazine de Canal Sud, il est 13h passées de 7 minutes et nous sommes en compagnie de Gaël Cérez et Armel Parion du média Médiacité.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, toi Gaël, tu es rédacteur en chef de Médiacité Toulouse. Toi Armel, tu es journaliste ici à Toulouse pour Médiacité.
Exactement.
Voilà. Alors, pour rappel, si vous êtes ici, c'est aussi puisqu'il y a une actualité de votre média. Il y a un rendez-vous ce soir à 18h, place Lange à la Topina. C'est un apéro-débat de Médiacité où vous allez aborder notamment le thème d'une de vos séries d'articles qui porte sur l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà rapidement un petit peu cet événement là ce soir ?
Oui, c'est parti du constat qu'il fallait. On est un média complètement en ligne, on a peu de relations avec nos lecteurs et lectrices et du coup on voulait créer des lieux de rencontre comme ça. Donc on a lancé cet événement qu'on a appelé l'apéro débat, parce que l'idée c'était de débattre en vrai, c'est plus de la discussion et il y a rarement de contradicteurs, parce qu'ils refusent toujours de venir malheureusement. Peut-être qu'un jour ça portera vraiment bien son nom. Et l'idée, oui, donc c'était de discuter d'une thématique avec des lecteurs, des experts et les journalistes à l'origine de l'enquête. On a par exemple commencé un truc sur donc c'était avant le confinement, donc dans le monde d'avant, sur la gestion des déchets à Toulouse, etc. Et là on relance du coup cet exercice après 18 mois d'absence, de pause, autour de la série Se nourrir dans nos villes, qui est une série fleuve, puisqu'il y a une trentaine d'articles qui ont été publiés ou qui vont l'être au total à Toulouse, Lille, Lyon et Nantes, qui sont les villes où on travaille, Médiacité, parce qu'on est un média en ligne multimétropolitain, on pourrait dire comme ça. Et donc voilà, et on a fait, notamment Armel, plus spécifiquement, des enquêtes, des décryptages sur ce sujet, et du coup on voulait en discuter en direct avec nos invités qui ont participé, qui ont répondu à nos questions, mais Armel pourra en parler beaucoup mieux que moi.
Peut-être qu'on garde ça juste pour parler un petit peu après. Bon, on reviendra là-dessus, mais il y a ce rendez-vous ce soir, donc à 18h pour vous rencontrer. Mais
peut-être c'est plutôt 18h30.
C'est à partir de 18h30 et ça commencera sans doute vers 19h pour 2h, mais on est assez libre. Et donc c'est à la Topina, qui est un petit café-restaurant très sympa à Saint-Cyprien. Sous le pont.
Au niveau des arcades, voilà, du pont Saint-Pierre,
tout à fait.
Plus précisément.
Très bien, d'accord. On
et
rappelle.
On y mange bien. Et on peut manger, en fait, pendant le débat. C'est ça, l'intérêt de l'apéro. C'est que l'idée, c'est de déguster, de boire et de discuter de choses intéressantes.
Ok, donc un moment convivial. Pour justement parler d'alimentation, ça tombe plutôt bien.
Tout à fait.
Mais pour commencer, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu, justement, Médiacité ? Comme tu le disais, c'est présent, c'est un média en ligne, c'est présent dans plusieurs villes. Comment ça a commencé, en fait, cette histoire de Médiacité ?
Alors, la genèse de ce média, en fait, sont une poignée de journalistes de l'Express qui quittent ce magazine. Ils en avaient marre des directives, des repreneurs qui imposaient des choix éditoriaux auxquels ils ne croyaient pas, etc. Et qui font le constat que localement, il n'y a pas d'investigation journalistique, ou peu, on va dire, pour ne pas faire de généralité. C'est-à-dire que des grands médias comme Le Monde, Mediapart, Libé, L'Express, quand même, ou Le Point, etc., font des enquêtes au niveau national sur les élus, sur les entreprises, les grandes structures qui font notre société, mais qu'à l'échelon local, il n'y a personne, en fait. Parce qu'à l'échelon local, c'est la presse, en général, la presse, la PQR, comme on l'appelle dans le jargon, la presse quotidienne régionale, ici incarnée par la Dépêche du Midi. Dans l'Ouest, on a Ouest France, Télégramme. Dans l'Est, c'est plutôt le Dauphiné Libéré ou le Progrès à Lyon ou la Voix du Nord près vers Lille, etc. Ces journaux, ils sont très importants. Moi, j'ai travaillé comme à Ouest France au début de carrière et c'est un métier super enrichissant et très utile pour les lecteurs. Mais c'est vrai qu'ils font de l'enquête, mais pas beaucoup d'enquêtes. Et souvent, ils laissent sous le tapis des sujets un peu gênants pour leurs annonceurs qui sont les collectivités, les grandes entreprises, etc., etc. Et donc, le constat, c'était que c'est, qu'il y a, de ce fait, il y a un déficit d'information et donc un déficit de démocratie, parce que quand on met sous la table des sujets qui fâchent, il y a un problème pour les lecteurs qui, et les lectrices qui sont d'abord des électeurs et des électrices.
De grosses difficultés, si je peux me permettre, d'indépendance aussi pour compléter.
Oui.
Ça transparaissait de tout ce qu'expliquait Gaëlle, mais du coup, souvent, les pouvoirs locaux en place, bah, nous, des relations de proximité très fortes avec, les médias, en fait. Et moi, c'est pareil, je l'ai vécu plutôt du côté sud-ouest, pour le coup, donc un autre grand titre de presse quotidienne régionale, et il y a vraiment des exemples par dizaines qui montrent que c'est très difficile quand on est journaliste en local de garder totalement son indépendance. Et d'ailleurs, en général, dans les règlements internes aux médias, il y a une mutation, en fait, qui est proposée tous les 2-3 ans aux journalistes, justement, en connaissance de cause, pour éviter cette trop grande proximité, mais qui existe quand même.
Et si je peux continuer aussi, à moins que tu aies une question.
Ben moi, ma question, c'était, comme vous avez bossé dans, justement, cette grande presse, avec d'autres règles et d'autres normes, et que vous avez, que maintenant vous êtes justement dans ce média plus indépendant, est-ce que ça a changé votre manière de travailler ?
Alors, quand je travaillais, moi, pour Ouest France, j'étais débutant, donc je me souviens pas avoir été gêné ou étouffé dans une affaire, parce que tout simplement je débutais, donc j'avais pas forcément mis le nez dans des sujets comme ça. Je me rappelle d'une fois, par contre, quand je suis arrivé à Toulouse, dans un de mes premiers boulots, où j'ai enquêté sur un sujet en lien avec Airbus, et très vite, ça a été très compliqué, parce que Airbus et le milieu aéronautique étaient l'un des gros pourvoyeurs de publicité ou financeurs d'événements organisés par le média pour lequel je travaillais, et ça a causé quelques frictions, parce qu'on tapait un peu, mais c'était factuel, hein, à l'époque, on avait mis la main sur toute une analyse sur l'impact sur l'emploi d'une politique d'Airbus, et ben voilà, on a eu des pressions pour changer le titre, pour cacher un peu le papier sur le site, etc., etc., et pour pas trop donner suite à ce sujet là, enfin, donc c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Je sais pas, c'est une affaire qui date, on va pas rentrer plus dans les détails, mais ce sont des genres de pressions qui existent. Quand récemment un vieil élu toulousain me racontait, enfin vieux quand même, que sous l'ère de Dominique Baudis, donc le maire qui a été maire jusqu'en 2000, les années 2000, l'orée des années 2000, 2004, ouais, a priori, enfin bon, ça début là, excusez-nous, eh bien, comme il était en conflit avec la Dépêche pour des affaires, enfin voilà, des scandales qui le concernaient à ce moment-là. Bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais eh bien, la mairie avait arrêté d'acheter de la pub dans la Dépêche. Elle avait arrêté de financer X chose comme elle le faisait auparavant. Et bah, pour la Dépêche du Midi, bah, c'était une source de revenus en moins. Donc forcément, bah, on se pose des questions. Ça a un impact, quoi, sur ce que font les journalistes derrière, parce qu'un journal, c'est d'abord une entreprise, à part pour le service public. Et quand on a des annonceurs publicitaires, ces publicités sont vendues par des commerciaux. Et quand on tape trop en tant que journaliste sur les annonceurs publicitaires, ben, y a les commerciaux qui sont nos collègues qui viennent dire « vous êtes gentils, mais nous on ne peut plus travailler et in fine c'est nous qui payons vos salaires, donc calmez-vous ». Et c'est vraiment une réalité, c'est pas un complot, ça existe, tout le monde en a plus ou moins conscience, c'est plus ou moins fort selon les médias et c'est plus ou moins fort selon que les journalistes s'auto-censurent aussi. Comme moi j'ai pu le faire dans d'autres médias, parce que ben, on est lié à par une ligne éditoriale et par le besoin de payer le loyer.
On sait très bien ce qui sera accepté ou pas par la rédaction en chef, en fait. Il y a des sujets, on sait qu'on aura beau les proposer, ils ne seront jamais choisis. Donc en fait, oui, il y a de l'autocensure. Et je voulais juste ajouter un petit truc, sans aller jusqu'au sujet polémique, il suffit de prendre l'exemple de la presse culturelle, sans citer de nom, parce que c'est toute la presse culturelle est pratiquement concernée. En général, elle vit de publicité. Et sans aller jusqu'à choisir des sujets qui font plus plaisir que les sujets qui fâchent, la presse culturelle souvent fait même des petits accords. Bah, vous nous prenez une pub tel lieu culturel, en échange on parle de vous, on vous fait une double page. Rien que ça en fait. Et ça, finalement, ça veut dire que les choix éditoriaux ne sont pas faits en toute liberté pour la qualité du sujet, mais aussi selon des critères financiers, quoi.
Et donc, pour répondre à ta question, ce que ça change de travailler pour Médiacité, c'est qu'on n'a pas de publicité. Donc, on n'a pas de pression de ce point de vue-là, vu qu'on, de toute façon, ne gagne pas d'argent grâce à des annonceurs, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, en fait, de ce point de vue-là. Nos seules sources de revenus, ce sont les... Alors, on a quelques subventions, quand même, nationales, mais c'est vraiment ultra minime. Le modèle économique est basé sur l'abonnement, un peu comme Mediapart, pour ceux qui connaissent. Et donc, on ne vit que de ceux qui s'abonnent pour lire nos articles, qui sont complètement uniquement payants, en fait, à quelques rares exceptions. Alors, ça, c'est la théorie, évidemment, parce qu'on est un média qui a été créé en 2016, donc on est tout jeune, on n'est pas du tout encore à l'équilibre. Et donc, aujourd'hui, on gagne quand même une bonne partie de nos revenus via l'abonnement, mais pour arriver à l'équilibre, équilibrer chaque année les comptes, on a recours à des investisseurs privés qui sont minoritaires dans l'actionnariat de Médiacité. Ce sont toujours les 5-6, bon, la petite poignée, j'ai plus le terme, je suis mauvais avec les chiffres quand j'ai pas mes notes, mais donc la poignée de fondateurs à la base est toujours majoritaire à plus de 50% du capital de l'entreprise. Et là, on a fait une levée de fonds de 250 000 euros pour voir venir encore quelques longs mois. Donc, c'est compliqué parce qu'on n'a toujours pas assez d'abonnements, mais on se bat pour en avoir de plus en plus. Et là, on a lancé récemment une campagne pour dire aux gens de nous rejoindre.
Très bien. Je propose de faire une petite pause musicale avant de revenir un petit peu sur le fond des articles et des thèmes que vous abordez.
Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Her zaman üzersin beni, çok yaramaz çapkın seni. Benim hiç günahım yoktur, baştan sen çıkardın beni. Çok arayacaksın ben ağlayıp inledikçe sen Allah'tan bulacaksın. Her zaman üzersin beni, çok yaramaz çapkın seni. Benim hiç günahım yoktur, baştan sen çıkardın beni. Esmerim güzelim, tutti dilim ben yanım. Cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, tutti dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tutti dilim ben yanıyorum.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est 13h et un peu plus de 24 minutes et nous sommes toujours en compagnie de Gaël et d'Armel du journal en ligne Médiacité, Toulouse en l'occurrence. On a commencé déjà un petit peu la discussion en présentant ce média par notamment son fonctionnement, une rupture en fait avec aussi un fonctionnement plus capitaliste d'autres grands médias dans lesquels par ailleurs vous avez travaillé. Mais peut-être pour rentrer un peu plus dans le fond, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu, puisque vous fonctionnez pas mal par série d'enquêtes, par série d'articles, Est-ce que vous pourriez présenter quelques-unes des séries qui sont parues voilà, cette année, par exemple, dans le journal, et qui vous a, voilà, qui vous a intéressé, quoi, des thèmes qui vous ont intéressé?
Alors, on travaille par série et pas que. C'est vrai qu'on on fait comme tout média, on sort des affaires, des histoires par, de façon unique, on va dire. Comme par exemple, en février 2020, une histoire en lien avec les femmes de ménage de l'université Jean Jaurès, qui étaient exploitées, qui sont toujours exploitées. Petit salaire, temps partiel, harcèlement moral, sexuel, etc. Un an après, on est revenu pour voir comment était la situation et c'est là, ça n'avait rien changé. L'entreprise avait changé de nom, mais les conditions étaient toujours les mêmes. Donc, c'est pas tout à fait une série au sens où c'était un article unique, mais on en a fait un complément un an après. Parfois, on fait plus court, on fait 6 mois après, 1 an après, pour voir comment ça suit. Parce que c'est une des critiques qui est faite souvent aux médias, quels qu'ils soient, c'est qu'on n'a pas de suivi en fait des histoires dans le temps. Alors en vrai, quand on regarde les archives, les journaux font souvent le taf, c'est-à-dire qu'ils suivent quand même les sujets au fil du temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, peut-être pas de lien fait entre chaque article, ce qui donne parfois cette idée-là.
C'est surtout qu'ils sont dans l'actualité, donc sur le show tout le temps. Et donc c'est au fil de l'eau, et donc il y a un suivi implicitement, mais il n'est pas voilà, défini comme tel, je trouve, en général.
C'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'à côté de ce travail-là, on fait des séries, qu'on construit comme des séries, c'est-à-dire qu'on se donne un thème et qu'on est là, qu'on imagine, qu'on phosphore sur plein d'angles différents, plein de sujets pour parler de ce sujet-là.
À titre d'exemple, par exemple, il y a une série sur AZF récemment.
Ouais. Alors par exemple, voilà, AZF, donc les 20 ans de cette catastrophe, on se disait, enfin je me suis dit, vu que c'est moi qui suis aux manettes, qu'il y avait plein de néo-toulousains, moi le premier, qui n'avaient pas toute l'antériorité sur cette catastrophe, qu'il y avait plein de gens qui ne savaient même pas ce que c'était. L'idée c'était de revenir un peu sur les. De faire tout, 4 articles en l'occurrence pour redonner un peu les grandes clés sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout un retour un peu historique et en photo sur l'événement, le procès, etc. La bataille de la mémoire, le complotisme sur l'origine de l'explosion. On a fait un sujet sur comment les quartiers populaires ont été, qui ont été les premiers touchés au-delà de l'usine même, donc comment ils ont été oubliés dans les premiers jours.
Et dans cet article, par exemple, comment est-ce que vous avez travaillé?
Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un journaliste indépendant, donc je ne sais pas exactement comment il a écrit, mais je peux l'imaginer pour bien le connaître. Il a notamment... beaucoup étudié une énorme thèse de 200 pages sur le sujet qui était en ligne, qu'il fallait trouver, mais qui était en ligne. Et en complément de cette base théorique et très factuelle aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'entretiens dans cette thèse, il est allé voir des acteurs qui étaient sur le terrain, des gens qui avaient vécu ce moment-là, et il a confronté les sources et voilà, tout simplement. Comme ça, pour le coup, ça ne change pas, en fait. C'est la différence avec peut-être les autres types de journalisme, c'est qu'on a plus de temps, et donc on peut approfondir les sujets, on peut citer les gens plus longuement, et les rencontrer une heure, deux heures, deux fois, trois fois, avant de publier l'article, alors que nos confrères et consoeurs qui sont dans la presse, qui font de l'actu, le matin, ils décident un sujet... voire 2, voire 3, et il faut qu'ils les rendent dans l'après-midi. Donc forcément, tout est beaucoup plus compressé, et on a moins de temps, donc on fait plus d'erreurs. Nous aussi, on fait des erreurs, on le dit, on les corrige, on s'excuse. Et donc voilà. Et le principe des séries, c'est que ça, voilà, ça permet de... On ne traite pas tout dans un sujet, mais ça permet de mettre en lumière plein de facettes. Là, on en a lancé une. Il y en a une, évidemment, sur l'alimentation, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Là, on vient d'en lancer une sur la naissance, Parce que, bon, on est comme, grosso modo... La naissance des humains, ouais. des nouveau-nés. Parce qu'on est une ville à Toulouse très, très jeune, avec beaucoup de trentenaires qui arrivent, qui commencent à travailler ici, des couples qui se forment et qui donnent naissance à des enfants. Tout ça, moi je le vois autour de moi, enfin, avec plein de gens qui, et avec Armel, je sais pas si je peux le dire, mais bon, on se pose.
Ça se voit pas à la radio, ça se voit pas à la radio, ça y est, tout le monde le sait.
Et donc,
ça tu pose... es né.
Voilà. Je suis né.
Non, mais je veux dire, ça pose plein de questions autour de nous et des questions qui sont parfois sans réponse. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, là, le premier sujet, c'est un sujet qui est pas proprement toulousain, mais qui fait suite à un appel à témoins sur les violences obstétricales, ouais. Pour voir si ça existait toujours. Parce qu'en 2014, il y a eu un grand mouvement de libération de la parole sur ce sujet-là. Donc c'est toutes les violences que subissent des femmes avant ou pendant, même après, mais là on a borné le sujet sur vraiment le jour de l'accouchement, des violences physiques ou psychologiques. Donc à l'époque, il y a eu 7000 témoignages pour faire prendre conscience de ça. Parce qu'on se dit souvent, bon, bah, l'accouchement, c'est, tu vas souffrir et c'est un peu obligé. Mais en fait, c'est pas tout à fait une fatalité. Il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Et on se disait, bah, quelle est la situation aujourd'hui? Et donc, on a reçu 130 témoignages. Il y avait des témoignages très, très forts, des témoignages de gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens, des témoignages de femmes qui avaient 50 ans et qui racontaient ce qui leur était arrivé il y a longtemps. Et donc, on a confié ça à deux journalistes et qui ont sélectionné des témoignages très récents pour montrer que c'était encore le cas aujourd'hui, donc avec des cas à Nantes, à Lyon. Alors on n'en avait pas pour le coup à Toulouse, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc c'est, voilà, donc c'est, ça nous a permis de voir que ça existait, et le plus important, c'est qu'elles ont essayé et elles ont réussi de trouver des solutions pour réduire la perception de la douleur, pour mieux prendre en compte ce que pensent les mères qui vont donner naissance, pour réduire le taux d'épisiotomie, pour améliorer la situation et donner un peu d'espoir, et pas simplement faire le constat de tout va pas bien, quoi. Tout va pas encore très bien.
Du coup, je reviens un petit peu sur, puisque vous l'avez présenté, mais juste moi je me suis un peu baladée sur votre site. Et en effet, les thèmes, même on voit, on regarde les articles d'un ou d'une même journaliste, on voit que c'est super pluriel en fait, les thèmes que vous abordez, que vous n'êtes pas forcément spécialisé. Donc il y a des enquêtes sur, on va dire, ce qui se passe au niveau de la gestion de l'argent public par les élus. Il va y avoir un sujet, t'en parlais, de santé publique ou de questions de violences faites aux femmes, AZF. Enfin bon, bref, c'est ultra pluriel. Mais comme tu vas partir dans pas longtemps, je voulais quand même te poser une question un peu d'un regard un peu critique que j'ai eu en lisant. C'est... Parce que j'ai remarqué que dans vos enquêtes, vous faites beaucoup appel aux chiffres et aux statistiques. Et c'est vrai que ça fait... moi, ça me questionne en fait sur cet usage-là de la statistique dans l'information ou dans la presse de manière générale. C'est pour ça que juste avant d'en parler, je te posais un peu la question de comment on fait pour être journaliste justement quand on a une démarche un peu alternative, de me questionner comment est-ce que, quelle place vous vous donnez à la statistique et aux chiffres dans un monde qui justement a tendance à beaucoup justement informatiser et à nous envoyer beaucoup d'informations comme ça chiffrées et à numériser en quelque sorte le monde dans lequel on vit.
On en fait trop, en fait.
Je sais pas. Non. Moi, l'avis que j'ai eu et
c'est ton ressenti.
C'est mon ressenti, oui. Et je voulais savoir si c'était un truc commun ou si ça vous questionnait vous-même en tant que journaliste, en fait.
En fait, l'approche statistique qui est un peu rêche à lire, faut avouer, quand il y a 15 pourcentages dans un papier, 10 000 chiffres.
On essaye d'éviter d'ailleurs, voilà. Même si parfois c'est pas facile, mais on essaie d'éviter de mettre trop de chiffres. C'est une consigne qu'on se donne.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de mettre en lumière des évolutions, des choses qui n'apparaissent pas sinon, quoi. Alors,
Et surtout, c'est une manière de justifier en fait ce qu'on avance, parce qu'il y a de la subjectivité dans le journalisme à travers les témoignages. Et d'ailleurs, une partie de l'équipe, et même toute l'équipe, est plutôt favorable, c'est pour ça, au sujet de société, à tous ces thèmes, ou même à la santé, etc. Mais il y a aussi, dans beaucoup de sujets, quand il faut creuser et amener des preuves, en fait, les preuves, elles passent aussi par les chiffres, l'argumentation peut passer par des statistiques, par des chiffres, ça permet en fait d'objectiver aussi les choses. Et ça, c'est très important dans un travail d'enquête, parce que sinon, on va vite pouvoir nous reprocher, et c'est normal que les lecteurs soient exigeants. D'avancer des choses sans les avoir vérifiées, quoi. Il y a ça aussi. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Gaëlle.
Tout à fait ça. Ça nous permet de renforcer des choses qu'on constate, mais avec une personne, deux personnes, trois personnes, qui sont du coup des ressentis forts et sincères, toujours et vérifiés, mais qui parfois ne parlent que pour eux. Et donc l'approche statistique, parfois, elle permet de donner un peu d'ampleur à ses ressentis, parce qu'elle montre que c'est pas une situation particulière, mais quelque chose qui peut être généralisé.
En fait, c'est un gage de sérieux. Je dirais qu'il faut des chiffres pour avoir un gage de sérieux vis-à-vis de nos lecteurs. Et puis, il faut aussi du témoignage pour incarner ce qu'on raconte, parce qu'en effet, un journalisme qui reposerait que sur des chiffres, ce qui est parfois le reproche qu'on peut faire au journalisme économique, par exemple, peut parfois être un peu sec, un peu aride. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le bon équilibre entre les deux, je pense.
Mais par exemple, dans un sujet qu'on va publier demain, normalement, j'en parle pas, je dis pas où ça se passe parce que c'est pas encore en ligne, mais c'est une grande structure toulousaine avec des grosses suspicions de harcèlement. On a recueilli beaucoup de témoignages, hein, une quinzaine. Alors ça serait sur 2000 personnes, ça serait. Et encore, ça serait à prendre en compte, mais. Là, c'est sur une structure de une quarantaine de personnes, enfin à temps complet, un effectif de 17, donc à jour J, on va dire. Donc 15 personnes qui témoignent, c'est beaucoup. Et on a été en mesure de compter en fait tous les gens qui, subissant cette atmosphère désagréable, cette ambiance de travail déplorable, et avaient quitté leur poste. Et donc, en présentant ce chiffre, cette approche statistique RH, ça met en lumière un phénomène qui est problématique. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui quittent une entreprise, c'est que quelque chose ne se passe pas bien dedans. Enfin, ou bien c'est parce qu'on leur propose des salaires mirobolants ailleurs, mais ce n'est pas exactement la réalité qu'ils décrivent. Donc là, l'approche statistique, elle permet d'attester d'une réalité qui est contestée par ailleurs, hein, par les responsables de cette entreprise, enfin, de cette structure plutôt.
D'accord, très bien. Non, est-ce que tu veux rajouter avant de partir peut-être quelque chose, des rendez-vous, un rappel pour votre campagne justement d'abonnement
Je comptais laisser ma collègue conclure par ça, mais
on en mettra deux couches comme
ça. Voilà, on en mettra deux couches. Effectivement, on a lancé mi-septembre une campagne d'abonnement pour recruter 2000 abonnés. Sur l'ensemble de notre réseau à la fin de l'année. Aujourd'hui, on a 850, donc ça se passe bien et on espère arriver à cet objectif. Pourquoi on a fait ça ? Parce que l'année 2021 a été compliquée pour beaucoup de médias, notamment la presse en ligne, avec un tassement du nombre d'abonnés qui nous rejoignent, parce que tout simplement, c'est quand même la crise économique, hein, pour plein de gens, même si on nous parle de croissance à 6%, de chômage qui baisse. Nous, les retours qu'on a, entre manger des pâtes et entre manger tout simplement et lire Mediacité, je choisis quoi. Et évidemment, je lis pas Mediacité, donc je renouvelle pas mon abonnement j'en fais pas un premier. Et donc, c'est pour ça que, au rythme où on était parti, on n'aurait pas atteint l'équilibre avant 2024-2025. L'année peut-être de la mise en place de la troisième ligne de métro, si un jour elle existe à Toulouse, je sais pas, enfin, ça repoussait tout ça à beaucoup trop loin. Donc on a lancé ce message pour dire aux gens, vous aimez ce qu'on fait, on a toujours des mécontents évidemment, surtout les gens sur qui on écrit, mais globalement on a que des bons retours. Et l'idée de ça, c'était de dire, mais aidez-nous en vous abonnant, parce que on comprend que vous partagiez les PDF de nos articles entre amis, mais si vous faites tout ça, on ne pourra pas survivre au-delà de mars prochain. Donc voilà.
D'accord.
Abonnez-vous.
Très bien. Du coup, on fait une petite pause, on attend, oui. Et puis on reviendra avec Armel. Merci à toi. Voilà, dans 3 minutes.
Once it's been set in motion, you know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way on Monday? 'Cause I like to do things God doesn't approve of. If she saw us, she couldn't look away. She'd wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. It's been set in motion. You know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen up your collar. 'Cause as long as you're still breathing, don't you even think of leaving. I'm gonna wanna look away.
Vous êtes toujours à l'écoute du 92.2 Canal Sud, il est 13h43 exactement et nous sommes toujours en compagnie d'Armel de Médiacité, j'ai oublié ton nom de famille.
Parion.
Armel Parion. Donc toi tu es journaliste donc à Médiacité dont on vient un peu de parler et tu fais partie des journalistes qui ont écrit dans une série sur l'alimentation qui s'appelle Se nourrir dans nos villes, c'est
ça ? Se nourrir dans nos villes, en fait, pour rejoindre un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure aussi. En effet, on fait des séries souvent parce qu'on aime bien suivre, les sujets qu'on traite, mais on fait aussi des séries transversales à nos quatre villes, en fait, puisque Médiacité, on est aussi à Lille, à Lyon et à Nantes, donc on est dans quatre villes. Et quand on trouve qu'un sujet s'y prête, on essaie de le traiter dans les quatre villes pour essayer de donner une vision d'ensemble et puis d'approfondir un peu ce côté enquête dans nos villes. Et là, l'idée, c'était de parler de l'alimentation, donc comment on nourrit nos villes. Il y a une trentaine d'articles qui ont été publiés depuis fin août et c'est pas terminé, sur différents thèmes. Et donc, il y a aussi bien des articles qui vont être déclinés dans nos quatre villes. Par exemple, qu'est-ce que mangent les enfants dans les cantines scolaires ? Est-ce que le bio est vraiment plus présent qu'avant par rapport à la viande et toutes ces questions-là ? Donc là, un article est paru dans chacune de nos villes. De la même manière, on a choisi 4 spécialités locales. Donc ici à Toulouse, c'était le cassoulet. Alors le cassoulet, c'est pas vraiment complètement toulousain, c'est plutôt de Castelnaudary au départ, même s'il y a une polémique à ce sujet. Mais l'idée, c'était aussi de donner un éclairage sur nos spécialités. Donc c'était les moules frites à Lille, le petit lu à Nantes, la quenelle de Lyon et le cassoulet de Toulouse. Donc moi, je me suis occupée de la partie cassoulet. Et finalement, ça fait rigoler, en effet, parce que moi-même, la première, quand on m'a dit « Est-ce que tu peux faire un article sur le cassoulet ?», je me suis dit « Mais c'est quoi ce... Je peux faire une enquête là-dessus. Ça ressemble pas du tout à un sujet médiacité. » Et ben, détrompez-vous. J'ai découvert plein de trucs, en fait, parce que l'économie du cassoulet, ben, c'est très intéressant. On se rend compte qu'il y a une économie locale, mais qu'elle est vachement fragilisée parce que... À côté, c'est devenu un plat industriel repris par la grande distribution. Qu'en fait, le haricot, du coup, qui est produit dans le Lauragais, qui fait un peu la spécificité locale du cassoulet au départ, qui a été importé par Catherine de Médicis au XVIe siècle. Enfin, il y a toute une histoire et tout un folklore autour de cette histoire, en plus. Ce haricot, finalement, n'est pas suffisamment produit, parce qu'il est difficile à produire dans des conditions très compliquées, pour pouvoir alimenter tout le circuit de distribution et toutes les boîtes qu'on trouve dans nos supermarchés, etc. Donc c'est en fait très intéressant de se rendre compte que derrière cette tradition locale, ce plat qui fait un peu sourire, parce que c'est un ragoût, et voilà, on en rigole, c'est le cassoulet de Toulouse, et ben finalement, il y a plein d'enjeux économiques... culturel aussi, de survie d'une filière. Et il y a même une grande confrérie du cassoulet qui compte parmi ses représentants des anciens présidents de la République et tout.
Je suis pas sûre de les inviter dans le magazine. Mais
non, ils seront peut-être pas dans le magazine, mais en tout cas, le cassoulet, c'est pas simplement une spécialité un peu roborative, c'est aussi plein d'enjeux derrière sur filières locales.
Ok. Mais du coup, les produits où alors ce cassoulet, genre les haricots et tout, s'ils sont plus produits dans la région
Ils sont produits dans la région, mais en fait, ce qui est produit dans la région alimente un quart, par exemple, de ce que produit un seul industriel qui s'appelle la Belle Chaurienne. Il y a un industriel, donc local, qui produit, qui utilise 800 tonnes de haricots, c'est ça, j'ai mes notes sous les yeux, heureusement, 800 tonnes de haricots par an pour faire ses plus de 20 000 boîtes. Et ben sur ces 800 tonnes de haricots, il en a à peine 200 qui proviennent du local, en fait, parce qu'il n'y en a pas plus au niveau local. Donc ces haricots viennent d'Égypte, viennent d'Europe de l'Est, idem pour la viande. La viande, elle est pas à 100% locale. Donc on pourrait se dire que finalement, c'est un choix parfois de ces industriels, mais même ceux qui essayent de faire bien, parce que je parle de la Belle Chaurienne, qui est quand même un industriel qui se revendique comme faisant quand même un peu de qualité, c'est pas du bas de gamme, voilà. Ben, ne peuvent pas de toute façon s'alimenter exclusivement avec la filière locale. Donc il y a tous ces enjeux derrière. Et ce soir, à notre débat sur l'alimentation, on aura notamment un ancien référent de la grande confrérie du cassoulet qui, lui, tient un restaurant sur l'autoroute à une trentaine de kilomètres de Toulouse, qui sert du cassoulet, qui défend bec et ongle le cassoulet local et qui, lui, utilise 15 tonnes de haricots produits localement pour servir ses 60 000 cassoulets tous les ans sur son aire d'autoroute. Et donc lui, c'est un indépendant et c'est un peu un irrésistible gaulois parce que c'est un des seuls aujourd'hui à avoir un restaurant indépendant plutôt sur une chaîne d'autoroute. Enfin voilà, c'est anecdotique, mais c'est rigolo en même temps et intéressant.
Mais en fait, moi je me demande quand même, parce que cette histoire de manger local, en fait, je ne sais pas si la question, si l'opposition, elle est dans local national ou en fait dans le mode de production qui est utilisé et la concentration... du capital agricole, on va dire. Est-ce que ça, c'est une question en fait. Parce qu'en fait, parler de... Alors, limite, je veux bien qu'il y ait un patrimoine culinaire et qu'il y ait des traditions et que ça fasse partie de l'identité de chacun, chacune. Complètement d'accord. Mais après, là où, en fait, ce qui devrait être un argument écologique ou... on va dire émancipateur, le local devient un argument économique et commercial, ça me pose aussi question.
On s'est aussi posé toutes ces questions, parce que bon, là, c'était le point de départ, c'était les recettes locales et de retracer un peu l'origine de ces recettes. Est-ce qu'elles étaient vraiment faites avec des produits locaux? C'était ça la question. C'était un prétexte pour se plonger dans toutes ces économies de ces plats. Mais en effet, on s'est posé la question du local, du bio. Est-ce que consommer des produits locaux, est-ce que c'était forcément plus écologique? Est-ce que le bio, c'était toujours écologique? La réponse est non à chaque fois. Il faut des conditions, il faut aussi trouver les bons circuits de distribution, il faut pouvoir mutualiser les flux, comme on dit. Et voilà, et on sait que par exemple, consommer un repas au restaurant, et ben ça coûte, ça consomme beaucoup plus de CO2 finalement que de manger chez soi, par exemple, parce que en comptant toute la route qu'ont dû faire les produits, comment ils ont été acheminés jusqu'à nos assiettes, c'est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît. Et justement dans cette série d'articles, donc dans ma ville. C'était d'aller aborder un peu toutes ces questions en profondeur, toujours un peu l'ADN de Médiacité, et aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, de partir un peu du terrain, parce qu'une des choses qui nous tient à cœur, c'est de mettre en avant le participatif, de faire participer nos lecteurs. Et donc pour cette enquête dans ma ville, on est parti de 515 témoignages de nos abonnés, qu'on a interrogé au printemps dernier sur leurs pratiques alimentaires. Et c'est comme ça, en fait, grâce à eux et grâce à plusieurs experts qu'on a identifiés dans nos quatre villes, qu'on a pu aussi identifier les sujets qui nous semblaient intéressants. On s'est dit, c'est pas à nous de chercher forcément toujours les angles, il faut aussi qu'on s'intéresse à ce que les gens sur le terrain constatent. Donc ça a permis de faire remonter des choses comme la disparition de certains petits commerces depuis le Covid, comme le fait qu'il y avait une vraie tendance de cuisiner maison qui était revenue pendant le confinement, mais qu'elle n'était pas que positive parce que ça rimait aussi parfois avec des contraintes pour des familles qui devaient cuisiner beaucoup de repas qu'elles ne cuisinaient pas d'habitude, des coûts supplémentaires aussi et d'autres questionnements, etc. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de partir du terrain et de ce que les gens qui nous lisent constataient aussi dans leur ville respective pour après créer des articles et avoir des idées de sujets pour Médiacité.
Et c'est vrai qu'en parcourant un petit peu votre série, notamment, alors je crois que c'est pas toi qui l'as écrit, mais il y a un article sur les cantines scolaires à Toulouse. L'idée, c'est un peu de décortiquer ce qu'il y a dans l'assiette des élèves toulousains. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a quand même il y a rien sur le prix pour les familles de la cantine, et c'est vrai que ça manque un petit peu cette question du budget que ça représente, parce que ça.
Ça aurait pu être un autre sujet.
Mais je me rappelle que mes parents, ils me disaient que ça coûtait super cher pour ce que c'était la cantine. Je sais pas plus,
que c'est proportionnel aux revenus et que c'est fixé par les villes, ça dépend. Mais en effet, c'est Brianne Cousin, donc, qui est journaliste à Médiacité à Lille, qui s'occupait des 4 articles sur ce qu'on mange, ce que mangent les enfants dans les cantines scolaires. Et elle s'est plutôt intéressée sur le contenu, la composition des menus. Et notamment, elle est allée jusqu'à décortiquer ce que voulait dire ratatouille maison à la cantine toulousaine, ouais, par exemple. Ouais. Et dans cette ratatouille, en fait, on se rend compte qu'elle est à moitié maison, voire pas du tout maison. Voilà, donc elle est allée chercher les menus. Et certaines villes, on parlait tout à l'heure des chiffres, mais il y a aussi tout un travail sur les données de manière générale quand on fait des enquêtes. Et autant parfois les données sont accessibles, autant parfois elles le sont moins. Et ce qui était appréciable à Toulouse, c'est qu'apparemment tous les menus pouvaient se trouver en ligne, en fait, étaient accessibles au grand public. Donc Brianne a pu consulter dans le détail, en fait, tous les menus sur un mois, je crois, ou une semaine, je me souviens plus exactement, mais pour pouvoir vraiment comparer, voir les apports nutritionnels de chaque journée, etc., et comparer par rapport aux engagements de la ville aussi.
Et du coup, quand on parle de la nourriture, il y a aussi, une inégalité d'accès à la bonne nourriture. On pensera notamment au bio, mais en fait, pas seulement. En fait, aujourd'hui, la nourriture, ça coûte très, très cher. C'est quand même un budget énorme, quoi, quand on gagne le SMIC ou moins, enfin, juste de se nourrir convenablement. Toi, après avoir justement participé à cette série, peut-être après avoir enquêté là-dessus, c'est quoi, qu'est-ce que tu as appris sur justement ce qui se joue dans l'accès à la bonne nourriture en termes par exemple de classe sociale ?
Eh bien en effet, alors il y a par exemple une enquête que j'ai faite sur le marché de gros de Toulouse, et moi je me suis intéressée au bio dans le marché d'intérêt national de Toulouse, le grand marché de Toulouse, donc qui est avenue des États-Unis, c'est le deuxième plus gros de France après Rungis en fait à Paris, et c'est celui qui fournit quasiment tous les restaurants de la ville, mais aussi tous les marchés sur lesquels on achète ses fruits et ses légumes, que ce soit le grand marché Cristal à Toulouse, que ce soit tous les autres marchés en fait, Saint-Aubin et tous les autres. Et en fait, ce qui m'interrogeait, c'est qu'il y avait très peu de producteurs bio, de maraîchers bio sur le carreau des producteurs le matin qui distribuaient leurs marchandises, alors que c'est là, finalement, où on nourrit la ville, justement, ces grands marchés. Et ben, pourquoi il n'y avait pas une volonté plus manifeste de développer le bio ? Et en fait, ben, là, par exemple, je suis allée voir des maraîchers bio, je suis allée voir aussi la directrice du du grand marché pour essayer de comprendre ce qui fonctionnait pas. Et c'est des problèmes d'échelle, parce que l'organisation est faite de telle sorte en fait que si vous êtes pas grossiste, eh ben c'est très difficile d'écouler sa marchandise ici, parce que vous passez dans un deuxième temps à un horaire plus tardif, que du coup vous avez moins de clients, que du coup vous pouvez aussi moins diversifier vos produits parce que votre production, eh ben elle est plus contraignante. Quand on fait du bio, c'est un peu plus contraignant, faut pas utiliser de pesticides. Et donc c'est tout bête, mais si au grand marché qui nourrit 1 million de bouches chaque jour, et donc tous les Toulousains, il n'y a pas de bio, et ben comment le bio va se retrouver dans nos assiettes? Ce sera simplement chez quelques privilégiés qui iront s'approvisionner dans des épiceries un peu plus chères en général, en effet. Mais par exemple, on a aussi pointé des initiatives plutôt positives. Ce sera plutôt du journalisme de solution. C'est pas moi qui me suis occupée de ces articles, mais notamment, il y a une association qui s'appelle VRAC, qui est présente à Lyon et à Toulouse, peut-être dans d'autres villes, mais en tout cas dans ces deux villes-là qui nous concernent, chez Médiacité. Et cette association a justement comme objectif de rendre accessible la nourriture de qualité à tous les foyers. Et donc elle travaille beaucoup dans les quartiers, par exemple à Toulouse, ils sont à Bellefontaine, aux Isards et dans beaucoup de quartiers du Mirail en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment d'amener les foyers à consommer de la qualité au niveau alimentaire, en faisant des ateliers, en faisant de la formation et en négociant en fait des prix de gros, enfin en négociant, en mutualisant en fait tout simplement la logistique pour amener ces produits, pour distribuer ces produits, afin que justement un ménage modeste, une famille puisse accéder à ces produits de qualité. Voilà, donc on a aussi essayé de mettre en avant ces initiatives positives pour que ce soit à la portée de toutes les bourses de bien se nourrir et pas simplement disponible pour les gens les plus privilégiés, quoi.
Et donc ce soir, ce sera donc l'objet de la discussion à 18h30. À 18h30,
enfin, ça commence
pardon.
À 19h. Et d'ailleurs, il y aura aussi Julien Kebalo, qui a monté son restaurant à Basso Cambo, qui s'appelle Basso Compote, et qui est aussi sur cette dynamique-là de proposer de la nourriture de qualité livrée en direct des producteurs et non pas justement au grand marché. Donc, il peut aller chercher du local, du bio et de la bonne nourriture à prix très, très accessible pour proposer un restaurant donc dans le quartier Basso Cambo, avec de la nourriture de qualité. Il a fait même des ateliers pour bien se nourrir pendant le confinement. Apparemment, ça a assez bien marché, où les familles pouvaient se connecter, avoir des idées de recettes avec ses produits, etc.
Ok, très bien. Alors là, il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes avant la fin. Ça peut être peut-être l'occasion pour toi de parler peut-être d'autres thématiques qui traversent toi, ton travail de journaliste dans ce média, ou des enquêtes que tu as ou que tu es en train de mener?
Eh ben, en fait, ce qui est très très appréciable, en tout cas quand on travaille chez Médiacité, c'est ce que Gaëlle disait tout à l'heure, c'est de pouvoir prendre son temps, en fait. C'est un média où on a le temps d'aller interviewer une trentaine de personnes sur un sujet. Alors, pas toujours une trentaine, c'est peut-être un peu trop, mais une quinzaine en tout cas. Et c'est vrai qu'on est beaucoup confronté à des thématiques autour du harcèlement, qui malheureusement est quelque chose qui est très prédominant dans notre société. Peut-être que la parole s'est libérée aussi, c'est sûr, avec des mouvements comme MeToo, et c'est tant mieux. Et du coup, c'est vrai que je suis pas mal occupée régulièrement par des sujets en lien avec du harcèlement, que ce soit dans le milieu culturel. J'avais publié deux enquêtes sur MusicToo. MusicToo, c'est un mouvement qui a fait suite à MeToo, qui est issu d'une plateforme citoyenne qui a récolté plein de témoignages dans le milieu de la musique. Et à Toulouse, il y a une structure qui a été touchée. En particulier avec de nombreux cas de harcèlement subis par plusieurs jeunes femmes de la part d'un ancien manager. Donc c'est des sujets qui sont pas évidents parce que on en parlait tout à l'heure, il y a du témoignage. On recueille des paroles un peu fragiles.
Comment
gens...
tu t'es retrouvée justement à recueillir ces témoignages?
Parce que justement, MusicToo, la plateforme citoyenne, a fait appel à nous, comme ils avaient beaucoup de témoignages qui concernaient Toulouse, cette structure toulousaine, ce manager toulousain. Ils nous ont demandé si ça nous intéressait de nous y pencher. On travaille souvent un peu main dans la main avec Mediapart, qui est notre grand frère au niveau national. Et eux traitent beaucoup tous ces sujets-là. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes sur MusicToo. Et comme là, ça se déroulait à l'échelle toulousaine, c'était plus logique que quelqu'un qui vit à Toulouse s'en occupe. Donc voilà, moi, j'ai récupéré en fait les témoignages qu'ils avaient reçus sur leur plateforme. Je les ai approfondis, j'ai recontacté les gens, j'ai trouvé d'autres témoignages. Et ça, c'est des enquêtes qui mettent parfois plusieurs mois. Ça peut même être encore plus long, hein, dans certains cas. J'ai jamais fait d'enquête qui dure 2 ans, mais ça existe, évidemment. Et parce qu'il faut prendre le temps, en fait, d'écouter les gens. C'est pas des interviews de 10 minutes, vous vous en doutez. Et voilà. Et après, de croiser les témoignages. Et on parlait tout à l'heure des chiffres. Dans ce genre de sujet, il n'y a pas beaucoup de chiffres, justement. Donc, ce qui fait la force, c'est d'avoir une multiplicité de témoignages pour recouper les informations et être sûr de ce qu'on raconte. Parce qu'évidemment, on s'expose très vite à la diffamation. Et voilà. Et l'idée, c'est pas d'aller devant le tribunal tous les 4 matins parce qu'on a mal parlé de quelqu'un ou qu'on s'est trompé en accusant à tort et à travers des gens de mauvais agissements. Si c'est pas le cas, ce serait dommage quand même. Mm-mm.
Très bien. Du coup, on rappelle le rendez-vous ce soir à 18h30 au Tapioca.
Non, à la Topina.
Topina,
la Topina,
voilà.
C'est un restaurant à Saint-Cyprien.
Voilà, on parle de bouffe maintenant.
Sous le pont Saint-Pierre, exactement.
Ok, très voilà, bien. Peut-être des prochains rendez-vous ou des rendez-vous en ligne. Des...
Le meilleur rendez-vous en ligne que je puisse indiquer, c'est celui de notre campagne actuelle. Donc abonnez-vous à Médiacité si vous avez envie de nous soutenir. Déjà, découvrez-nous pour commencer si vous ne nous connaissez pas. On a bientôt franchi le cap des 1000 nouveaux abonnés. Il nous en faut 2000 d'ici la fin de l'année, donc ce serait bien si on perdait pas le rythme. N'hésitez pas à nous soutenir.
D'accord, ben merci beaucoup. Notre émission se termine là-dessus. Et nous, on se retrouve demain à partir de midi pour une discussion sur le mouvement abolitionniste de la police aux États-Unis et de ses échos en France.
Parce que j'ai mangé des knackis, je suis impur. Je vais mourir en enfer, dans l'enfer des dieux hippies. Je vais pourrir en enfer, dans l'enfer des dieux hippies. Je vais mourir en enfer, dans l'enfer des dieux hippies. Je vais pourrir en enfer, dans l'enfer des dieux hippies.
Dans l'enfer des dieux hippies, je cultiverai le radis avec mon pull quechua.
Car le boulanger est maudit, comme maudit est le bain. C'est la nature qui le dit, et la nature a raison. Et le hippie a raison, Mama Gaia a raison, Papa Gaio a raison. Le hippie a trouvé la substance de la vie dont se sont éloignés les bouffeurs de knacky. La mission des justes, c'est de mettre sur la voie. Dans le compost divin, le sang loi expira. Je vais mourir en enfer, dans l'enfer des dieux hippies. Je vais pourrir en enfer. Choses ont une fin, tout retourne à la terre. Alors donne-moi une knacky, car tôt ou tard, je mangerai le radis par la racine. Je vais mourir en enfer.